Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi au Kassai Oriental. Je réfute totalement ce que
tu dis. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à toutes et à tous et merci de suivre Radio Capi qui vous propose ce nouveau numéro des paroles aux auditeurs. Lors du Conseil des ministres de la semaine dernière, le président Félix Tshisekedi a recommandé au gouvernement qui est dans le processus d'élaboration du budget 2023 que ce budget soit significativement axé sur la programmation des dépenses d'investissement dans les secteurs sociaux de base, notamment la santé, l'éducation et le développement rural ainsi que dans les structures d'intégration nationale. Il devra en outre inclure le soutien à l'entrepreneuriat local par la dotation de moyens conséquents pour soutenir les activités d'investissement des jeunes. Quels sont pour vous les préalables pour y arriver? 081-890-4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Ce magazine est mis en nom de par Paul Badianyama. Quant à moi, Pierrot et la Mégis, c'est un réel plaisir pour vous les présenter, fidèles auditeurs. Bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Et pour évoquer cette question du prochain budget et la priorité qui doit être mise sur les dépenses d'investissement pour le secteur social de base, comme l'a souhaité le chef de l'État, nous avons dans ce studio M. Jackson Aoussé. Bonjour.
Bonjour M. Pierron.
Député national élu d'Irumu dans la province de l'Ituri, où il y a eu encore d'atrocités dernièrement, pour ouvrir une parenthèse avant d'évoquer la question du budget.
Malheureusement, Pierrot, on en est là. On continue à perdre les vies humaines. Les personnes continuent à être emportées. Les villages entiers continuent à être incendiés. Nous sommes toujours sidérés par cette résurgence de l'insécurité. Djougou s'embrasse encore. Irumu, aujourd'hui Mambasa. La province de l'Ituri n'a que 5 territoires. Et si je vous parle de Djougou, Irumu et Mambasa, c'est déjà 3 sur 5. Et quand on parle de Mambasa, Mambasa, à lui seul, occupe la moitié de la province. Donc, pour ça, le calcul est simple. Les 3 quarts, n'est-ce pas, de la province de l'Ituri est embrasé. Les groupes armés locaux, les groupes armés étrangères, y opèrent à mettre.
Et nous allons revenir d'ailleurs la semaine prochaine dans un débat sur la résurgence des atrocités dans la province de l'Ituri, mais aussi évoquer le Nord Kivu. Ça sera notre sujet de la semaine prochaine dans Parole aux auditeurs.
Nous resterons disposés.
Voilà. Et pour revenir au sujet du jour, vous êtes député national, donc l'autorité budgétaire, comme on vous appelle. Comment d'abord trouvez-vous le plaidoyer du chef de l'État dans ce propos lors du Conseil des ministres sur cette question de budget?
Le chef de l'État, en tant que symbole de l'unité nationale, en tant que premier citoyen de la République, c'est normal. C'est normal que le premier d'entre nous puisse se sentir obligé d'alerter son équipe. En fait, pour moi, c'est une alerte. C'est une alerte de par les informations qui lui parviennent. Parce que là, nous sommes à 64e Conseil de sécurité depuis que notre législature ici a commencé.
Au Conseil des ministres.
Conseil des ministres, oui. Je m'excuse. Nous sommes à 64e. Pour dire qu'il y en a eu premier, il y en a eu deuxième, il y en a eu 30e, il y en a eu 40e, nous sommes au 60e. Pour qu'on arrive là, pour que les chefs arrivent à parler à ces termes précis, il se pourrait que les informations ne soient pas optimales, ne soient pas dans le sens que lui voulait que cela puisse lui parvenir.
C'est-à-dire que par rapport aux anciens budgets et de leur exécution, on s'est rendu compte que ça n'a pas vraiment atteint le niveau de ce qu'on voudra sur le plan des investissements au niveau de social, comme on l'a dit.
C'est ça l'essence même de rappel à l'ordre du chef de l'État. C'est ça l'essence. Parce que ici, nous sommes mis un peu en porte-à-faux de par la communication même du gouvernement. Parce qu'au même moment, vous allez comprendre, le chef de l'État a dit quelque part, on ne doit pas tout simplement mettre les accents sur le niveau de maximisation des recettes.
Des recettes.
Il va falloir que la maximisation des recettes
corrobore avec les résolutions de problèmes dans nos villages, dans nos groupements. Apparemment, ce n'est pas apparemment, effectivement, nous, en tant que députés, nous constatons cet écart. Il y a un écart important entre tout ce que nous disons ici. Parce que vous allez voir, il y a un tableau, parce que j'ai le compte rendu du Conseil des ministres, il y a un tableau là où on parlait comment est-ce que nos régies financières, les DGRA, les DGI et tout ça,
sont en dépassement même des assignations.
Comment ils ont fait l'exploit dans la maximisation. C'est pour cette raison que le chef vous dit, attention, il y a quand même un problème. Ça entre, mais pourquoi ça ne sort pas? Parce que si ça sortait, parce que le budget c'est ça, le budget ça doit absorber et ça doit sortir. C'est ça le budget en fait. Mais comment vous me dites ici que ça entre, mais la sortie n'est pas optimale. C'est pour cette raison qu'il réclame, il parle sur les traits de vie des institutions, il parle sur la rationalisation des recettes. Ça c'est le chef de l'État qui l'a dit dans sa communication ici. Pierrot, croyez-moi, ensemble avec le chef de l'État, nous sommes tous alarmés. Nous sommes tous alarmés parce qu'aujourd'hui, au-delà de l'insécurité, mettons de côté l'aspect sécuritaire, qui est un problème, qui est flagrant, qui est important. Au-delà de ça, il y a d'autres provinces dans lesquelles on peut quand même toujours investir. Je ne vois pas qu'est-ce qui empêche qu'on investisse dans les grands Équateur, dans les grands Bandundu ici, dans les Maniema. Je ne vois pas qu'est-ce qui empêcherait qu'on investisse. La situation est préoccupante. Parce que là aussi, pour moi, nous sommes en difficulté dans le sens que c'est notre dernier budget, monsieur Pierron.
Oui.
C'est notre dernier budget d'exécution. Bien sûr que le budget 2024, nous allons l'adopter, mais ce n'est pas nous qui allons l'exécuter. Nous serons déjà notre législatif.
Voilà.
C'est cela le danger pour nous. Mm-hmm. Mais aussi, bon, c'est une bonne volonté, mais dont la réalisation, la prise en compte sera presque impossible. Demandez à ce budget ici, à ce budget 2023, de résoudre nos ratés, de résoudre nos imperformances des autres budgets sur un seul budget, ça sera très compliqué.
Alors peut-être l'idée c'est pas peut-être pas de résoudre tous les problèmes, mais alors, vous qui étudiez ces budgets pour l'adopter, qu'est-ce qui doit être fait alors si on veut vraiment que les prochaines assignations pour 2023 se concentrent sur ces soucis d'améliorer ce que les Congolais aiment bien dire les sociales de la population comme ça a été décrit, qu'est-ce que le gouvernement devra faire?
Le gouvernement doit présenter une nouvelle nomenclature de dépenses. C'est cela, parce que nous sommes quand même à la fin de notre mandat. On ne doit pas ici balbutier, on ne doit pas ici tâtonner, non. Après 4 ans de gestion de la République, on a quand même la main sur la manette des problèmes du pays. Si nous allons rester sur la même nomenclature de dépenses, c'est-à-dire la manière dont nous formulons, n'est-ce pas, nos nécessités de dépenses, notamment le fonctionnement de nos institutions, qui absorbe presque les 60% du budget. Les achats de papier, les achats de ceci, les achats de ceci, chaque année, ce sont les mêmes tables qu'on doit acheter, pour les mêmes bureaux et tout. Moi, je pense que nous serons, le chef de l'État vient de nous, parce que cette alerte nous est aussi adressée tacitement. Parce que le budget doit passer par nous, c'est à nous d'adopter ce budget, même si dans l'exécution, nous on a que la mission de contrôle, n'est-ce pas, de suivi et de contrôle, mais ici en amont, nous devons effectivement réagir. C'est pour cette raison que, là je voulais que j'intervienne, je demande au bureau, je demande à la commission Econfin de l'Assemblée, de nous permettre d'organiser un débat d'une semaine. Parce que parfois nous les condamnons, nous disons, pourquoi on nous amène le budget parfois à la veille de la fermeture de la session? On vous amène le budget, vous fermez le 15 décembre, mais on vous amène le budget le 12, le 10. Et vous le débattez nuitamment, on vous dit que non, le budget est adopté. Cette fois ici, ça ne passera pas. Nous voulons que le budget soit déposé en temps, et nous voulons que l'État donne que la session budgétaire, la session de septembre, elle est une session budgétaire. Nous voulons avoir, pourquoi pas, un mois, ou à la limite 2 semaines, de débats houlés, pas sur les chiffres, mais sur
l'affectation.
Sur la nomenclature de dépenses de ces budgets ici, parce que nous voulons voir les écoles. Le gouvernement ici inaugure moins, hein? Permettez-moi de le dire. nous inaugurons moins. Il y a peu d'activités d'inauguration. On n'inaugure pas des écoles, il n'y a pas de centres de santé inaugurés, il n'y a pas de routes connectées de retournées, il n'y a pas de ceci ou cela, des stades inaugurés. Ça nous énerve. Les chefs d'État énervés, nous sommes aussi doublement énervés. Merci. Et moi, voilà. Je pense que l'ego est donné.
Très bien. Alors, Jules, vous êtes à Bukavu, Alido Royeta Kananga et Xavier Alboumbashi. Merci de nous avoir rejoints. On échange ensemble sur le prochain budget. Quels sont les préalables pour arriver à répondre à cet appel du chef de l'État sur l'affectation de dépenses qui doivent répondre aux problèmes de la population. Merci, Jules, d'être avec nous. Bonjour.
Bonjour Monsieur Pierrot, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi. Je salue aussi Lili Diroum, Monsieur Jackson aussi.
Alors on merci
beaucoup. Ah oui, moi je pense que préalablement le gouvernement congolais doit bien identifier les besoins des Congolais. Bien entendu, éclaircir ses objectifs, parce que Monsieur Pierrot, on ne doit pas bâtir le Congo dans une seule nuit. Parce que tous les secteurs sont en bas pour le moment. Et alors, il serait mieux d'abord de chercher les secteurs qui peuvent prioriser, qui peuvent être donc des priorités. Et alors, ces secteurs qui doivent aussi prendre d'autres secteurs, parce que même nous, donc les hommes, nous ne satisfaisons pas tous les besoins donc à la même fois. Mm-hmm. Alors pour moi, tous les secteurs sont en difficulté dans notre pays, et pour y arriver il y a donc certains secteurs où l'on doit donc mettre donc tout on doit prioriser, voilà le terme.
Merci.
Je ne vois pas là où les petits commerçants, donc les petits entrepreneurs, peuvent investir là où il y a l'insécurité, par exemple l'entité où Monsieur Aou se vient dans ce coin-là. Je ne vois pas où un entrepreneur peut investir là où il n'y a pas une route. Je ne vois pas là où un entrepreneur. Allô?
Oui, on vous écoute, Jules.
Ok, je ne vois pas là où un petit entrepreneur peut prendre vraiment les kilos d'investir alors qu'il n'y a pas un bon climat donc des affaires. Alors, il serait mieux que qu'on construise d'abord qu'on puisse construire des routes, des dessertes agricoles, qu'on puisse relier donc toutes les provinces, donc la province du Bas-Congo et celle de Kinshasa, la province donc du Maniema et celle du Sud Kivu. Alors cela pourrait permettre à d'autres donc secteurs d'évoluer bien au lieu
Merci beaucoup, Jules, vous l'avez dit, on ne peut pas résoudre tous les problèmes d'un coup, mais pour vous, il faut identifier vraiment de vrais problèmes en faire une priorité en termes d'importance. Qu'est-ce qu'on doit faire, dans quoi on doit investir rapidement? Vous avez aussi évoqué les cas d'infrastructures, parce que c'est revenu dans l'appel du chef de l'État, et les cas de la lutte contre l'insécurité comme des secteurs majeurs pour vous, où il faudra vraiment consacrer une grande partie du budget. Merci beaucoup, Jules Alidor. Bonjour, merci d'être avec nous des Kananga.
Oui, bonjour Monsieur Pierrot, bonjour à l'invité et à tous les auditeurs de la radio Capi.
On vous écoute, Alido.
Oui, Monsieur Pierrot, la recommandation du chef de l'État traduit en quelque sorte l'autocritique ou la reconnaissance que beaucoup de défis demeurent encore à relever. Le régime n'a pas pu réaliser ce qui a été promis ou ce que le régime s'était assigné comme objectif à atteindre. C'est comme ça qu'un bon visionnaire, le chef de l'État, a fait l'autocritique en quelque sorte en rappelant ses troupes à l'ordre et en leur demandant de pouvoir réaliser ce qui a été promis, parce que nous sommes à une année et demie des échéances électorales. On risque de manquer de bilan présenté au peuple congolais, le peuple à qui on avait beaucoup promis pendant la campagne. Et quand on a changé de gouvernement, on a dit que c'était un gouvernement de warriors. Il n'avait comme autre autre objectif est le développement du Congo et aussi l'amélioration des conditions socio-professionnelles du Congolais. Mais c'est que nous ne sommes pas en train de vivre aujourd'hui. C'est comme ça que le chef de l'État a vraiment raison de rappeler l'équipe gouvernementale à pouvoir s'assumer, à bien faire le travail. C'est comme ça que, en termes de préalables qu'il va falloir réaliser, nous disons qu'il faut d'abord réduire les coûts chers des institutions. Il y a une groupuscule de Congolais qui vivent dans l'opulence pendant que la grande partie du peuple est en train de croupir dans la misère la plus noire. Il faut réduire les trains de vie des institutions. Nous en avons marre d'entendre parler des dépassements budgétaires, des excédents budgétaires au niveau des institutions. Ça, c'est un point. Le deuxième point, monsieur Pierrot, il faut aussi que nous puissions avoir une justice qui est digne de son rang. Parce que si nous n'avons pas une bonne justice qui fait peur aux détourneurs, une justice qui fait peur à ceux-là qui sont à la base d'évasion et fraude fiscale, nous ne pouvons rien espérer. Et le budget de 2023, sera toujours le même que les autres budgets de l'année passée. Il faut aussi penser à la création d'emplois, parce qu'aujourd'hui, là, le chômage des jeunes, les nouvelles unités et les non-payés, si ça continue encore en quelque sorte à tracasser la plupart de nos parents, de nos compatriotes qui travaillent sans salaire depuis des années. On leur a promis ceci, on leur a promis cela, mais ils n'ont rien. Il faut penser aussi à la création d'emplois. Et enfin, monsieur Pierrot, il faut aussi la répartition équitable des richesses du pays. Il y a certaines provinces, il y a certaines entités, certaines communautés qui se retrouvent au détriment des autres. Mm-hmm. Et ce qui fait que, par exemple, si vous êtes dans la région du Kassai, vous allez avoir l'impression que c'est un milieu oublié parce que nous en avons marre des premières pierres, des chantiers non finis. Donc on dépose la première pierre, parfois les sociétés qu'on consulte pour réaliser certains ouvrages d'intérêt public, on n'arrive toujours pas à le faire. Et nous en avons marre, M. Pierrot. C'est comme ça que si vraiment le chef de l'État et l'équipe gouvernementale ont besoin d'avoir un bon bilan présenté au peuple congolais, ils doivent pas seulement être dans les discours, mais cela doit aussi être traduit en actes. Ce n'est pas la première fois que le chef de l'État...
Merci beaucoup, Alidor. Alidor, vous avez évoqué que c'est aussi un signe d'autocritique et sur ce qui a été fait. Mais pour vous, la priorité doit être d'abord la réduction des dépenses qui sont aujourd'hui effectuées au nom du fonctionnement des institutions. Il faut vraiment réduire cela. Et le reste, il faut investir dans la production, vous l'avez dit, mais aussi avoir la justice qui dissuade ceux qui peuvent détourner les fonds affectés à l'exécution des dépenses pour les prochains budgets. Merci beaucoup. Xavier, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, Piro. Bonjour à l'élu du peuple, monsieur le député, ainsi qu'à tous les auditeurs du PRIS de la Stadio Okata.
On vous écoute, Xavier.
D'accord, merci. Et puis, je dirais premièrement, le chef de l'État a parfaitement raison sur toute la ligne dans ses recommandations, pour la raison que le chef de l'État s'est fait une haute idée de faire le diagnostic de vraies questions du pays. Mais cependant, je dirais il y a un vrai problème. Le vrai problème se situe au niveau de la matérialisation de ce diagnostic, donc du programme que le gouvernement ainsi que le président de la République élabore. Parce que quand vous voyez, premièrement, je me suis toujours dit que parfois ce que nos responsables politiques disent que ce sont les urgences, ce sont les priorités, mais des fois, pardonnez-moi de le dire comme ça, ils se trompent. Pourquoi? Je vais donner un exemple pratique. Vous voyez, on peut aujourd'hui vouloir rendre la maternité facile, mais quand vous voyez, le vrai problème social congolais aujourd'hui, ça s'appelle le pouvoir d'achat. Et le pouvoir d'achat, c'est quoi? C'est-à-dire le panier de la ménagère, le revenu de Congolais qui travaille, qu'est-ce qu'ils reçoivent comme salaire? Les gens, les chômeurs qui n'ont pas d'emploi, c'est comme mon prédécesseur l'a dit. Il y a nécessité de créer les emplois. Mais aussi ici, pourquoi ils n'arrivent pas à matérialiser le programme qu'ils conçoivent? Parce que quand vous voyez M. Pierrot, vous verrez ici que parfois, quand vous voyez le programme tel qu'il est conçu, c'est assez brut. C'est-à-dire, ce n'est pas du tout connecté réalité. Parce que parfois, nos responsables sont tellement déconnectés de la réalité congolaise, la vie que nous menons, nous Congolais, au quotidien. Quand vous voyez le petit peuple, comment il vit, parfois, c'est là qu'on vous pose problème. Lorsque le chef de l'État a évoqué intelligemment le problème de développement rural, mais ici, il faut se poser la question, est-ce qu'on peut développer nos milieux ruraux tout en concevant un programme à Kinshasa et le renvoyer dans le dit milieu et prétendre avoir des résultats escomptés, c'est-à-dire réussir à développer les milieux.
Oui.
Non, parce que normalement, les gens qui sont à Kinshasa ne connaissent pas bien le vrai problème, le vrai de nos
terroirs,
donc de nos milieux
ruraux. Pour vous, Xavier, s'il faudra aujourd'hui... Xavier, ça veut dire pour vous, il faut que l'élaboration du budget 2023 tienne compte des véritables problèmes de Congolais pour pouvoir le résoudre. Pour vous, la première priorité, c'est le pouvoir d'achat, c'est les revenus. Il faut que les budgets soient suffisamment affectés pour payer aussi les salaires. Et vous estimez que les autorités sont déconnectées de la réalité, mais rappelons quand même que toutes les autorités viennent toujours du même milieu. Mais alors comment ils arrivent au pouvoir et ils oublient les problèmes alors qu'ils viennent de milieux où se trouvent des problèmes? Des fois, c'est la question qu'on se pose. Alors on va écouter Marie-Paul qui est à Kisangani et on va revenir dans ces studios pour écouter notre invité, le député national Jackson Aoussé. Marie-Paul, merci de nous avoir rejoint. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Okapi.
On vous écoute, Marie-Paul.
Oui, la recommandation faite par le président de la République démocratique du Congo lors du Conseil des ministres est la palissade à l'existence de l'État même et autant chez régalien de tout État qui se veut responsable. Alors, par cette recommandation, le président de la République démocratique du Congo a bien compris que le pays est dans le tournant infernal de la pauvreté. Parce que, comme vous le savez bien, la mission d'un État, c'est bien évidemment assurer le bien-être de la population, sécuriser la population. Mais on se rend compte qu'en RDC, tous les secteurs de la vie publique ne font que l'ombre d'eux-mêmes. Parce qu'on ne sait pas réellement si le pays existe dans notre pays. Alors, face à ces tableaux sombres de la situation tous azimuts de notre pays, à mon avis, la recommandation faite par le président de la République fait appel au préalable que voici. Le premier préalable, on doit d'abord tenir compte de réduire, bien évidemment, les traits de vie des institutions, parce que nous savons que les institutions coûtent trop cher dans notre pays. Les traits de vie sont toujours exorbitants. Alors, deuxième préalable qu'on doit observer, c'est de réduire sensiblement le nombre des ministres. Il est quand même ahurissant de voir que dans notre pays, un pays sous-développé, on a 60 de ministres, alors que des pays tels que l'Amérique, il y a 13. La France n'a que dizaines de ministres. On doit réduire le nombre des ministres parce que les ministres coûtent énormément cher. Et aussi bien, si on prend ces nombres de ministres avec les autres hauts cadres de la République, ça pose problème. Troisième préalable qu'on doit observer, c'est de rabattre les avantages des émoluments, les salaires des hauts fonctionnaires. Vous savez, il y a quand même une disparité. Il y a une disparité du point de vue salariat. Nous n'avons pas une politique salariale de telle enseigne que tout le monde aujourd'hui cherche à se balancer dans la politique, alors que tout le monde ne peut pas aller à la politique. Il faudrait qu'on réduise tous ces avantages-là que les députés ont, que les ministres ont, que les hauts fonctionnaires ont, pour que la justice distributive soit quand même au rendez-vous. Quatrième lien, on doit interdire formellement les recours aux activités qui sont incompatibles par rapport à la fonction qu'on occupe dans les pays. On voit aujourd'hui les ministres avec des écoles, on voit les ministres qui deviennent des vrais hommes d'affaires, ce qui est incompatible, même la Constitution l'interdit, et ailleurs, des choses comme ça ne peuvent pas se passer. On peut voir un ministre avoir des écoles ou avoir des activités. C'est incompatible parce que il ne va même pas payer l'impôt, il va jouer de sa personnalité. Ce qui est un grand manque à gagner pour l'État. Et en cinquième lien, on doit attirer la justice distributive, je viens de le dire. Il faudrait que le revenu de la République soit réparti équitablement sur l'ensemble de la population. Il ne faut pas qu'il y ait les uns qui sont avantagés, les autres sont minorisés. C'est ce qui fait même que les gens prennent les armes. Lorsque si on ne sait pas, on s'imagine que moi je suis licencié, l'autre est licencié parce qu'il est ministre. Lui il doit toucher des millions, moi je dois toucher une maudite prime. C'est ce qui donne quand même ce que nous connaissons. En sixième lien, je crois que on doit sensibiliser, conscientiser tout le monde au nationalisme et au patriotisme. Tout ce que nous sommes en train de voir ici, c'est parce que dans les valeurs partagées des Congolais, il n'y a pas les nationalismes, il n'y a pas les patriotismes. Mais si les gens sont sensibilisés dans ce sens-là, on va protéger ce pays, on va protéger notre richesse.
Merci.
Et en dernier lieu, je crois que ce qu'il faut faire, c'est la gouvernance également.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie-Paul. Vous avez soulevé là certains préalables pour arriver vraiment à ce que le budget puisse répondre, n'est-ce pas, au véritable problème aujourd'hui. Et vous avez évoqué la question de la taille du gouvernement, mais si on part dans le principe chez nous où le gouvernement est formé en fonction des coalitions politiques, le nombre, la taille des partis politiques, on voit, on est à 500 partis politiques. Imaginez-vous, si on doit former un gouvernement en tenant compte du nombre de partis et regroupements politiques, on aura toujours des gouvernements monstrueux, si on doit tenir compte. C'est-à-dire qu'il faut qu'on forme le gouvernement aussi, je sais pas, sans tenir compte de ce principe-là. Parce que s'il faudra satisfaire chaque groupe politique, chaque parti politique qui est membre soit de la majorité, voilà comment ça se fait chez nous. Et là, on finira toujours par avoir de gouvernement monstre. Merci beaucoup aux uns et aux autres. Nous allons revenir dans ce studio à notre invité. Je rappelle que vous pouvez intervenir au 081-890-49-69.
Parole aux auditeurs.
Voilà, vous avez la parole, Monsieur Jackson Aoussé, député national élu d'Irumu dans l'Ituri. Vous avez suivi les compatriotes qui s'expriment. J'ai quand même retenu une phrase d'un compatriote qui a dit « Mais pourquoi on semble agir en affectant le budget d'une manière déconnectée de véritables réalités, alors que les personnes qui affectent ces dépenses, ils ne tombent pas du ciel, ils viennent de nos milieux, de nos problèmes qui sont déjà connus ?»
Merci beaucoup. J'ai suivi les compatriotes. Ils ont été brillants. Ils ont présenté vraiment la diagnostic profonde. Ils sont des Congolais parce qu'ils vivent effectivement là où les problèmes, nos problèmes sont ressentis. Monsieur Pierron, les budgets c'est quoi? Les budgets sont les recettes et les dépenses. C'est ça le tableau. Il y a un tableau qui retrace toutes les recettes. Donc les ressources, là où les ressources vont venir. Et il y a un autre tableau qui retrace là où on doit affecter ces recettes-là. Ici, nous sommes, je suis à un moment un peu à l'aise, on va attendre le gouvernement, parce que le gouvernement nous dit, depuis un certain moment, que actuellement, le problème ne réside pas au niveau des recettes. Dans les temps, ce qui nous faisait peur, ce qui nous traînaillait, c'était parce que la mobilisation posait problème.
Mais
ici, la rhétorique a changé. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est même pas le chef de l'État, c'est le gouvernement. Parce qu'effectivement, ça, la mission revient à lui. C'est au gouvernement de mobiliser des recettes. C'est au gouvernement de
quand même, aujourd'hui, on voit que des recettes sont assez mobilisées, même dans les dépassements des assignations d'ailleurs.
Dans les dépassements, nous sommes au-delà de la prévision, en fait. C'est cela ici. Mais ici, si problème il y en a, le problème a quitté l'aspect recettes. Le problème a changé les cas, maintenant c'est au niveau des dépenses. Moi, je pense que ça devient simple. Parce que, si vous sortez, si vous dépassez en dehors de ce qui était prévu, c'est le détournement. C'est ça le terme. Ah, donc, moi, je pense que nous serons vraiment très forts. Moi, je voulais que je lise le troisième paragraphe de l'allocution du chef de l'État. Il dit
exact,
ceci.
Oui.
Il est donc entendu, lors de son exécution, une intensification des actions d'acquisition d'équipement dans les domaines de l'énergie, de la santé, de l'éducation et de la construction des infrastructures dans la finalité de l'amélioration sensible des conditions de vie de nos populations. Pour dire quoi? La finalité d'un programme budgétaire, c'est l'amélioration des conditions de vie de la population. Peu importe les chiffres que vous pouvez vanter, si ce chiffre ne parvient pas à atteindre sa finalité, qui est l'amélioration des conditions de vie de la population, ne vous en soyez pas fiers. Il faut vous dire qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Et que si on parle de l'amélioration des conditions de vie de la population, la première des choses, c'est effectivement ce que l'ami venait de le dire. Nous devons maîtriser notre masse salariale. La Bible dit toute personne qui travaille mérite un salaire. Il faut que tout Congolais qui travaille soit payé d'une manière permanente et d'une manière régulière. Aujourd'hui, dans des secteurs, vous allez voir, encore, nous voulons faire la rentrée. On a bien beau vu le ministre de l'EPST avec celui du budget des finances, avec, n'est-ce pas, les banques syndicales des enseignements primaires et secondaires, signer l'accord pour dire que la rentrée scolaire sera plausible. Nous voulons le voir, encore. Parce qu'aujourd'hui, le secteur de l'ESI, par exemple, le secteur de l'enseignement supérieur, est en train de souffrir, est en train d'en pâtir. Le secteur de la santé, tout et tout. Ah donc, ici, la priorité pour moi, c'est que le gouvernement nous aide à maintenir, n'est-ce pas, notre masse salariale. Tout doit passer par là, parce que c'est ça aussi, la justice est distributive. C'est ça aussi la manière, parce que le gouvernement, le budget de l'État n'est pas là pour distribuer de l'argent dans la rue. Une manière d'appliquer la justice, de concrétiser la justice distributive, ça passe par le paiement régulier, permanent, harmonieux des salaires des personnes. À part cela, et notre priorité serait le désenclavement de nos provinces, M. Pierron. Un auditeur a dit si, on ne peut pas investir. Je vous informe, c'est une information sûre que je voulais vous donner. Même le programme gouvernemental, le fameux programme des 145 territoires, être aujourd'hui, ce n'est pas ça le sujet, être aujourd'hui bloqué. Il n'y a pas manière de circuler dans les territoires. Nos territoires, nos chefs-lieux de territoire sont déconnectés avec les chefs-lieux de nos secteurs et chefferies. Aujourd'hui, l'évacuation, la circulation des matériels pose problème. Ah, donc, nos problèmes, nos programmes à nous, les programmes du gouvernement, se sentent aujourd'hui bloqués par le fait de l'enclavement de nos provinces. Ah, donc, je parle de salaire, je parle de désenclavement, n'est-ce pas, de nos territoires, de nos routes. Aujourd'hui, nos routes nationales. Pierrot, tu ne peux pas quitter Kisangani pour arriver à Bounia. Il faut laisser un mois pour bien observer cela, aller à l'aéroport, aller à Njili, aller dans nos aéroports. Aujourd'hui, tout le monde veut voyager en avion. Ce sont des mauvais indicateurs. Et notre gouvernement doit en être conscient. Parce que la résolution de tous ces problèmes lui revient.
Alors, quand on évoque cette question des trains de vie des institutions, c'est pas la première fois qu'il faut, aujourd'hui, la grande masse est absorbée par les institutions, présidence, gouvernement, assemblée nationale en termes de frais de fonctionnement, et c'est fois de montants colossaux. Quels devraient être de mécanismes à mettre en place au sein des institutions pour éviter qu'ils absorbent la grande masse du budget qui est collecté?
Alors, à ça, j'ai répondu. J'ai parlé de la nomenclature de dépenses. Parce que le gouvernement qui gère au quotidien, n'est-ce pas, les budgets de l'État, qui gère au quotidien la réalité de ces institutions, je pense qu'il est conscient de ce qui doit être fait, de ce qui doit être donné à ces institutions. Ce n'est pas des institutions qui sont, je ne sais pas moi, au ciel, qu'on ne peut pas voir. Et ce sont les mêmes institutions qui exécutent les budgets, qu'on demande et qu'on puisse réduire leur trait de vie. Moi, je pense que cette question, c'est vraiment une question que moi, je qualifie de populiste à un moment donné. Parce que on ne peut pas faire une émission sur le trait de vie des institutions, étant donné que ce sont les mêmes institutions qui sont appelées à exécuter les budgets. Ils doivent se dire, pour qu'un gouvernement fonctionne, pour que les autres institutions, notamment le Parlement, fonctionnent, pour que d'autres services fonctionnent, il leur faut combien? Parce que ces institutions ne viennent pas elles-mêmes prendre de l'argent. Ils sont dotés comme toutes les autres. Bon, comment doter à une institution l'argent, tout en sachant que cette dotation est au-delà, à principe, des assignations,
de ce qui
doit...
C'est ce qui a été affecté au niveau du budget.
Effectivement.
Et ça, c'est un problème de conscience, de rationalisation, comme le disait tout à l'heure un de nos auditeurs. Il y a un deuxième groupe d'auditeurs encore en ligne. Mathieu, vous êtes à Béni, au Nord Kivu, je pense bien. Mathieu, bonjour.
Merci.
Mathieu, bonjour. Vous êtes avec nous de Béni, bonjour.
Bonjour, monsieur Marcel. Bonjour à l'invité. Je suis à Béni, tout à fait.
C'est Pierrot. Nous sommes dans Parole aux auditeurs. Quel est votre point de vue par rapport à cette question de plaidoyer du chef de l'État pour le budget 2023?
moi, j'ai noté que le plaidoyer du chef de l'État, ce n'est pas, en tout cas, la première fois que nous avons toujours assisté à de tels discours, à de tels propos. Et lui, en tant que chef d'État, en tout cas, moi, j'estime que ce n'était pas, ou bien ce n'est pas une bonne chose, parce qu'il est, le garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Et donc, c'est lui qui doit, en tout cas, donner au moins la vision, parce qu'il a été élu sur base d'un programme, et si il estime que sur base de ces programmes-là, il doit donner une vision qui est nette. Parce que aujourd'hui, je me dis, avec le dépassement budgétaire au niveau de la présidence, et le chef de l'État est en train de dire qu'il faut accorder plus de budget dans tel ou autre secteur, et je pense que c'est toujours même les institutions qui violent, qui arrive à ne pas respecter le budget, parce que les dépassements sont constatés dans des institutions, notamment la présidence. Et que donc, c'est d'abord le chef de l'État qui doit, en tout cas, être modèle dans la gestion, dans l'observation de l'exécution du budget, de l'exercice que nous pouvons dire, soit 2023. Un autre aspect, c'est lequel ? Aujourd'hui, notre pays est menacé avec l'agression rwandaise, avec le M23, et que donc, le budget pour moi 2023 devrait plus être axé sur donc notre sécurité, notre défense, que cette fois-ci, les élites du peuple, au moins on a l'honorable Hussein qui est là, ils doivent quand même faire en sorte que, parce que ce sont eux qui sont autorité budgétaire, ils doivent donner plus de moyens à la défense pour que notre pays soit sécurisé. Parce que ici, à l'est, par exemple, le Nord-Kiv, c'est potentiellement riche. Et donc, quand nous avons un pays qui est stable, qui a la paix, nous allons attirer même des investisseurs qui viendront avec des capitaux et vont créer des emplois dans le pays, et ça va générer plus de recettes au sein de pays. Et pour finir aussi, ce que je voulais ajouter pour citer, c'est que le budget, on ne doit pas chaque fois, en tout cas, considérer que ce sont seulement ceux qui sont en train de gérer qui doivent se retrouver dans le budget. Il faut qu'on arrive aussi à accorder d'autres personnes, d'autres citoyens qui se retrouvent dans la répartition des budgets, parce que la population ne gagne rien. Parce que, en tout cas, vous allez voir tout ce qu'on on prend comme projet, ça n'arrive pas à aboutir, ce n'est pas concrétisé. Le budget a toujours été irréaliste. Et donc, la population ne se retrouve à rien.
Voilà,
et
merci. C'est-à-dire que là, vous avez évoqué tout à l'heure, Mathieu. Oui, Mathieu, vous avez évoqué tout à l'heure la question de la justice et du distributif, comme on le disait, qui est dans l'affectation du budget, qui est la population se retrouve. Ça, c'est en termes de, par exemple, de salaire, c'est en termes de rémunération, mais aussi des investissements qui peuvent créer l'emploi. Merci beaucoup, Mathieu. Jérémy, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour. Quel est votre point de vue, Jérémy? Jérémy, bonjour. Voilà, Jérémy est encore distrait sur sa ligne. Nous allons en Boujimaï, Kalokaloji. Merci de nous avoir rejoint. Bonjour.
Bonjour, monsieur Pierre. Bonjour à votre invité du jour et aux auditeurs de la radio Capi.
On vous écoute, Kalo.
Je commence d'abord par dire d'abord merci, mais je sais si cela sera réalisable. Au président de la République, d'abord, qui rappelle à son gouvernement. Moi, d'abord, ça me fait très mal. Ce n'est pas seulement au chef de l'État de rappeler que voilà, cette fois-ci, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire. Non. Mais où est le problème? Moi, je me dis, c'est chaque ministre dans son secteur qui doit mettre ça dans sa tête, que quand on établit les budgets, je dois faire de tout mon possible pour que le peuple se retrouve. Mais c'est Pierrot, excusez-moi. Vous savez, quand on parle des investissements, moi, je prends les investissements à deux faces. Il y a les investissements publics et les investissements privés. Mais j'ai l'impression que dans notre pays, ce sont les investissements privés actuellement qui boostent la croissance économique pour arriver au développement économique de notre pays. Mais ce qui n'est pas le cas. Si les deux marchent ensemble, ça va aller. Mais je me dis, Par exemple, au niveau, par exemple, quand on parle de train de vie, j'ai entendu votre invité qui a essayé de parler. En tout cas, ça m'a beaucoup vraiment embrouillé. Vous savez que si aujourd'hui on parle de diminuer les trains de vie, je sais bien que même les députés là ne peuvent pas accepter. Même au niveau des chefs de l'État, on ne peut pas accepter. Mais je vous prends. Vous savez que dans notre pays, moi-même, j'ai toujours fait une remarque du genre que nous avons des doubles ministres. Nous avons de ce que nous appelons gouvernement parallèle. Au niveau de la présidence, nous avons combien de conseillers dans chaque secteur? Et c'est combien? Et ces gens-là vous prennent combien en termes de l'enveloppe salariale? Moi, je trouve que c'est aberrant. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le moment? Moi, je trouve qu'ils doivent, le jour où la RDC va prendre 50% pour les investissements dans le budget, les investissements productifs, c'est le jour où ce pays va se développer. Vous savez, aujourd'hui, on est en train de faire des avenues dans des villes. Je ne suis pas contre, je suis pour ce qu'on fait. Mais regardez maintenant nos routes de dessertes agricoles. Quand on cherche de désenclaver d'abord les provinces, moi je vois ces routes-là. Moi je ne vois pas ce qu'on fait dans des villes. Dans des villes ici, c'est dans le sens de nous attirer pour les prochaines élections. Mais j'aimerais que le budget actuel, que notre gouvernement, s'ils sont vraiment pour le peuple, 50-50, qu'on prenne seulement 50 pour les investissements, 50 pour les institutions. Mais je sais que les députés qu'il y a avec vous, les députés, ils ne vont pas accepter parce qu'ils cherchent toujours de tous les moyens à ravir seulement une part pour eux et nous dire aujourd'hui.
Merci beaucoup. Alors, vous estimez que même notre invité, il est juste parti quand on parle des trains de vie des institutions. Ça veut dire qu'il faut réduire les salaires de députés. Je me rappelle bien, les débats étaient houleux une fois. Il y a un député national qui a estimé cette question de réduction des émoluments. Je pense même que ça a créé vraiment des remous au sein de l'Assemblée nationale. Alors, vous dites qu'il faudra aujourd'hui 50% dans le budget qu'on destinait aux dépenses sur les investissements productifs. Et le reste, ça peut aller à d'autres besoins, plus le fonctionnement. Et c'est ces jours-là qu'on va résoudre les problèmes en mettant l'accent sur les secteurs de route et des sites agricoles. On retourne ici à Kinshasa. Jean-Baptiste, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute, Jean-Baptiste.
Oui, alors, c'est vraiment important cette question de budget. Je pense que les sujets abordés dans ce budget sont tellement importants, notamment car on voit, n'est-ce pas, la santé, on voit l'éducation, ce sont des sujets hyper importants qui concernent notre pays parce que il faut pas l'oublier que nous avons encore beaucoup de défis. Le chef de l'État lui-même, il est conscient de ce qui existe encore dans la vie socio-économique de la population, surtout quand il évoque l'aspect de l'entrepreneuriat. Je crois que c'est très important. Mais tout simplement, notre équité se situerait au niveau des suivis. Parce que, vous savez, le précédent auditeur vient d'évoquer des réductions de paiements, de rémunérations de son politique. Je pense que le débat n'est pas aussi là, parce que le Congo ne manque pas ça. Le Congo ne manque pas ça. Ce que le Congo manque, c'est la volonté. C'est le suivi d'abord, parce que dans nos institutions, dans même tous les projets qui sont réalisés par le gouvernement congolais, il n'y a pas de suivi. Et quand tu n'as pas de suivi, bien évidemment, chacun se comporte comme bon lui semble, en fait. Et c'est là que nous assistons à des phénomènes tels que le détournement, tels que la corruption, etc. Je pense qu'au moment où nous allons mettre fait en ce genre de... Nous allons mettre un suivi, effectivement, dans ces projets-là, puisque le gouvernement l'a évoqué dans ce budget-là, et on va parvenir à réformer notre éducation qui cause un tel problème. On va réformer, on va apporter des constructions, des bâtiments, des santé, en fait, des structures de santé, des infrastructures, etc. Et donc ça va, c'est possible, mais tout simplement s'il n'y a pas les suivis,
il y a un problème. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Maître Francis, vous êtes à Goma, gardez la ligne. Je reviens à notre invité, le député national Jackson Aoussé. Jean-Baptiste vient de dire tout à l'heure, le problème, ce n'est même pas de réduire les salaires des ministres et des députés, parce que si nous avons la capacité de mobiliser autant de ressources avec la volonté, on peut arriver à payer autant millions d'argent aux uns et aux autres. Mais il y a notre ami Kalonji qui revient sur cette question d'affectation 50%, 50%. Mais je me rappelle bien, au sein de l'Assemblée nationale, chaque fois quand il s'agit de contrôle, quand on voit le débat sur la reddition des comptes, et souvent ce sont des débats qui arrivent des fois d'être bâclés, on y va plus rapidement, et le problème revient toujours, et c'est ça aussi de votre responsabilité de pouvoir sanctionner le gouvernement quand vous vous rendez compte que non, le budget, même celui de l'année passée, n'a pas été exécuté comme il fallait.
Effectivement, la responsabilité, il est partagé. La question du budget ici, c'est une question transversale entre les institutions, mm-hmm. principalement le président de la République, le gouvernement et le Parlement. Mm-hmm. Nous sommes tous responsables parce que nous intervenons chacun à un moment donné dans la construction du budget. Et c'est pour ce qui concerne nous, notre responsabilité, c'est celui de doter les pays du budget. Et étant autorité budgétaire, le fait que c'est nous qui adoptons le budget, donc effectivement nous devons agir efficacement à cette étape-là. C'est pour cette raison que chez nous, à l'Assemblée, l'étape ou l'organe le plus important, c'est notre commission ECOFIN. Parce que tout ne se fait pas au niveau de la plénière. Et au niveau de l'ECOFIN, il y a, n'est-ce pas, des sous-commissions aussi qui travaillent effectivement sur les compartiments des budgets, notamment les investissements, n'est-ce pas, les dépenses contraignantes, ainsi de suite. Ah, donc moi, je pense que nous allons recommander, cette fois-ci à nous-mêmes, pas au gouvernement. Nous allons recommander à notre commission de nous réécrire, si possible, un autre budget, à part celui que le gouvernement va nous amener, si le gouvernement va nous amener dans les mêmes termes que les autres budgets à passer. Parce que effectivement, ces termes-là, et les chefs de l'État, et le gouvernement, et nous tous, nous constatons que ça ne nous amène pas à atteindre la finalité d'un budget qui est celui de l'amélioration des conditions de vie de la population. Les années passent, mais apparemment, la souffrance continue à être ancrée dans nos milieux, et cela risque de nous mettre tous responsables. C'est pour cette raison que chacun doit jouer sa part de responsabilité. Mm-hmm. Nous attendons. La loi demande qu'au mois de septembre, ou plus tard octobre, que le budget nous soit déposé. Parce que nous ouvrons le 15 septembre. Mm-hmm. En principe, avant d'ouvrir, le budget doit déjà être là et que le débat puisse être commencé. Nous allons être très, très méticulés cette fois-ci. Comme je vous avais dit, en amont, que ça ne sera pas facile, que le budget 2023 porte les caractères avec lesquels nous allons les rédiger, puisse résoudre les problèmes que nous avions absorbés durant toute la mandature, durant toute la législature. Mm-hmm. Mais qu'à cela ne tienne, cela ne doit pas nous décourager, il va falloir qu'on puisse harmoniser. Étant donné qu'ici, nous sommes tous conscients, jusqu'à la première institution, qui est le président de la République, il est conscient qu'il faut une nouvelle orientation. Pour nous, c'est une brèche. Nous allons tous nous greffer sur cette orientation-là. C'est pour cette raison que je vous parle même. S'il faut réécrire un nouveau budget programme, parce que ici, bref, je comprends que la demande est de faire un budget programme. Un budget axé sur les résultats. Mm-hmm. Dans un budget très clair, on a 26 provinces. Combien d'écoles nous voulons construire? Combien de centres de santé nous voulons construire et équiper? Combien de kilomètres de routes, de dessertes agricoles ou bien de routes nationales qu'il faut construire? Moi, je pense que c'est celui-là le budget. Pas de budget de rhétorique, de beaucoup de littérature, un budget pragmatique, réparti à travers les provinces, tout en tenant compte des spécificités de nos provinces. Mm-hmm. Aujourd'hui, la rétrocession des provinces, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Les provinces, aujourd'hui, il faut aller dans nos provinces. Ils sont complètement abandonnés, ces provinces. Si ça arrive, pour le mois de mars, on vous donne la rétrocession vous donne au mois de mai. Pour le mois de mai, on va vous donner au mois d'octobre, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, au niveau, la gestion même de nos provinces pose problème. Voilà, donc écouter. Moi, je pense que la demande, elle est lassée. La demande, il est opportune. Mm-hmm. Et chaque institution doit jouer sa part de responsabilité, notamment nous, Parlement.
Alors, Maître Francis, vous êtes à Goma. Merci de nous avoir rejoints dans ces débats. Bonjour, Maître Francis.
Bonjour, Pierrot.
Alors, il y a beaucoup de bruit tout autour de vous. Hein. Si vous pouvez vous éloigner un tout petit peu tout en intervenant, on vous écoute. Maître Francis, vous êtes avec nous, mais vous êtes vraiment comme on dit, hein. Il y a trop de bruit autour de vous. Est-ce que vous pouvez vous éloigner un tout petit peu tout en intervenant?
Oui, je m'éloigne.
Oui, on vous écoute, oui.
Oui,
je voulais intervenir par rapport à ce que le député nous dit. Il y a un problème. Parce que il y a toujours eu des chapelets de bonnes intentions depuis un long moment. Je voulais demander aux députés quel est le moyen qu'ils vont utiliser cette fois-ci que ceux des législatures passées n'avaient pas pour que cette fois-ci ces intentions soient mises en pratique. Parce qu'on a tendance à croire que nos autorités sont là pour eux-mêmes, pour elles-mêmes, et que le peuple ne compte pas souvent dans leurs réflexions. Voilà ma question.
Alors pour vous, vous estimez qu'on a toujours dit et fait. Alors, quelle spécificité aujourd'hui vont-ils avoir, Monsieur Aoussé? Y a-t-il un autre mécanisme en dehors de celui que la Constitution vous donne pour que ce qu'on dit, ce qu'on veut, que ça arrive vraiment à se traduire en termes de contrôle, en termes de tout ce que vous pouvez faire avec l'exécutif?
En fait, il n'y a pas de magie. On ne va pas opérer le magie. Mais ici, tout simplement, je constate une prise de conscience collective des institutions. Parce qu'à un moment donné, les débats ne s'alisent qu'au niveau du Parlement, qu'on décrit, qu'on dit non, écoutez, le budget ici, il n'a pas été bien construit, c'était plein, il y a des problèmes, le budget est pris en otage, moi-même je l'ai dénoncé, la fois passée à l'adoption du budget, j'avais dit au gouvernement que le budget que vous venez de nous présenter était pris en otage par les institutions, il va falloir que notre commission a travaillé pour libérer les budgets du joug des institutions et tout et tout. Ça c'est à ce niveau-là. Mais ici, la particularité, pour répondre à mon ami, c'est qu'il y a une sorte de prise de conscience à tous les niveaux. Au niveau des institutions, parce que ça doit partir au niveau des institutions. Les citoyens ici participent au niveau de leur contribution au budget et au niveau de leur prise en charge par le gouvernement. Mais ici, les institutions jouent un grand rôle dans la conception des budgets, même dans sa matérialisation, ce sont toujours les institutions. Et quand ces institutions prennent conscience collectivement, en disant qu'apparemment la direction prise juste depuis un certain moment ne nous aide pas à en aller, c'est déjà quelque chose de très important. Et moi, je pense que cette fois-ci, les institutions, notamment l'Assemblée nationale, le Sénat, a une brèche. Il y a une brèche que les chefs, parce que notre exécutif est bicaméral. Il y a les chefs de l'État, il y a le Premier ministre qui, n'est-ce pas, sont aussi les têtes, n'est-ce pas, des institutions, qui constatent ensemble avec nous que les choses ne vont pas dans le sens d'atteindre la finalité. Et la finalité, c'est l'amélioration des conditions de vie. Et donc, les G et la C, il va falloir que chacun puisse jouer son rôle. Nous, voilà, au niveau de l'Assemblée, je parle bien, nous avons une commission qu'on appelle économique et financière, qui travaille beaucoup sur le budget. Il va falloir que nous, au niveau de la plénière, qu'on donne un mandat plus spécifique à cette commission-là pour nous réécrire au besoin. Cette fois-ci, nous aurons besoin d'un budget programme, un budget axé sur le résultat.
Les auditeurs se sont exprimés, ils ont été nombreux. Alors, qu'est-ce qu'on peut, un mot pour conclure cet échange, juste un mot.
Nous remercions, n'est-ce pas, les chefs de l'État pour ce go au gouvernement. Nous prenons les ballons au bon. Moi, je pense que nous avons la part de responsabilité, la part qui est importante d'ailleurs, c'est la nôtre, parce que c'est nous qui adoptons le budget. Nous allons travailler sur ces budgets-là, nous allons écrire un budget programme, nous allons chiffrer les nombres de ce que nous voulons faire, nous voulons traverser l'énergie, nous voulons traverser la santé, nous voulons traverser l'éducation, nous voulons traverser les infrastructures, les indications sont là, nous allons nous mettre au travail pour que le résultat soit au rendez-vous.
Merci beaucoup Monsieur Jackson Aoussé, député national élu du Rumu dans la province de l'Ituri. Merci à toute l'équipe des productions des paroles, aux auditeurs. Jiri Anania Mabondo était à la réalisation. Paul Badianyama a assuré la mise en onde. Quant à moi, Pierrot et la Mégie, je vous retrouve demain pour un autre numéro des paroles aux auditeurs. Cette émission est sur www.radiocapi.net. Au revoir.